Merci, Madame la Présidente, Excellences. Permettez-moi de m'associer à mes collègues pour vous souhaiter la bienvenue dans notre comité. Je vous réitère notre grande admiration, notre respect et notre gratitude pour les contributions précieuses que nous apporte Madame Bandana Rana, experte de ce comité. Je pense tout particulièrement à son engagement sans faille de soutenir les femmes en situation de conflit armé, notamment grâce à sa participation à une mission risquée dans un pays en conflit. Madame la chef de délégation, depuis votre dernier examen, le Népal a accompli des progrès considérables dans sa politique publique, dans le domaine de la santé, plus particulièrement en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative. Le pays a adopté en 2021, par exemple, une stratégie nationale contre la sélection discriminatoire du sexe. C'est encore un stéréotype négatif dans votre pays. Quoi qu'il en soit, des défis de taille demeurent pour garantir le droit à la santé de toutes les femmes et de toutes les filles au Népal. Et la situation est encore plus précaire en milieu rural. Le taux de mortalité maternelle est très élevé. C'est l'un des taux les plus élevés de la région de l'Asie du Sud. Il y a également des carences substantielles dans la prise en charge au sein des centres sanitaires. L'accès à des produits d'hygiène menstruelle accessibles est limité. Les installations d'hygiène, donc les toilettes pour les femmes, sont inadéquates sur le lieu de travail, dans les écoles. Il y a également des défis et des tabous sociaux associés aux règles. Le personnel sanitaire est parfois négligent dans le traitement réservé au personnel. Je pense par exemple au traitement réservé par les médecins à différents groupes de femmes. Il y a également un manque d'éducation sexuelle de manière générale au sein de la population et plus particulièrement auprès des adolescents. L'accès aux services de planning familial et l'utilisation de contraceptifs présentent également des défis récurrents. Certaines femmes s'abstiennent de recourir à la contraception tant qu'elles n'ont pas donné naissance à un enfant garçon, ce qui peut donner lieu à un risque de transmission de maladies vénériennes. Les travailleuses du sexe, par exemple, utilisent souvent des contraceptifs d'urgence, ce qui provoque des effets secondaires importants. La stigmatisation qui entoure les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida empêche les femmes de solliciter une prise en charge sanitaire opportune et adéquate, ce qui a des effets tout particuliers sur les femmes défavorisées comme les travailleuses sexuelles. Comment l'État parti envisage-t-il d'adopter des mesures dans tous ces domaines afin de lutter contre ces défis? Quelles sont les mesures que vous entendez adopter pour réduire la mortalité maternelle, pour améliorer la gestion des règles, pour mieux protéger les femmes face au risque de transmission de maladies vénériennes, pour lutter contre le VIH-Sida et pour améliorer l'accès à la contraception? Quelles sont les mesures que vous avez adoptées ou que vous allez adopter pour faire en sorte que toutes les femmes et toutes les filles puissent accéder de manière effective à des services de santé accessibles et inclusifs, notamment les services de maternité, de planification familiale ou de santé procréative? Et lorsque je parle de toutes les femmes et de toutes les filles, j'entends par là qu'elles doivent pouvoir en profiter indépendamment de leurs conditions personnelles, par exemple indépendamment de la nationalité, de l'origine ethnique, de l'appartenance à un groupe autochtone, indépendamment d'un handicap, du fait que l'on est membre de la communauté LBTI, que l'on est travailleuse du sexe ou que l'on a des faibles revenus. Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour faire face aux situations de discrimination, de maltraitance ou de négligence, notamment de violence obstétricale dans des centres de santé ou de la part du personnel sanitaire? Certains groupes congrès de femmes en souffrent tout particulièrement. Je pense par exemple aux femmes handicapées, aux femmes autochtones, aux femmes LBTI, aux travailleuses du sexe, ainsi qu'aux personnes intersexes. En ce qui concerne l'avortement, la loi 2075 sur le droit à une maternité sans risque et à la santé procréative, qui a d'ailleurs été adoptée quelques mois avant votre dernier examen ici au comité, permet un avortement en toute sécurité jusqu'à 12 semaines de gestation et jusqu'à 18 semaines en cas de grossesse due à un viol ou à l'inceste. L'avortement est également autorisé jusqu'à 28 semaines s'il y a une décision médicale présentée au sujet d'un risque pour la santé mentale ou physique de la mère en raison d'une grave anomalie du fœtus ou parce que la femme est séropositive ou une autre maladie incurable de nature similaire. Quoi qu'il en soit, ces services ne sont pas faciles à obtenir, ne sont pas nécessairement accessibles. On ne cherche pas non plus nécessairement le consentement éclairé et libre de la femme dans tous ces cas. Par ailleurs, cette loi, à son article 15, est incompatible avec l'article 189 du Code pénal. Que prévoyez-vous pour harmoniser ces deux textes de loi qui sont contradictoires? Quelles sont les mesures que vous allez adopter pour interdire totalement l'avortement sélectif en fonction du sexe? Comment allez-vous garantir que les femmes des groupes défavorisés pourront accéder à l'avortement? Je conclus, j'aimerais aborder les pratiques néfastes, les interventions, les traitements forcés sur des personnes intersexes et la stérilisation forcée ou non consentie de femmes handicapées constituent des pratiques récurrentes au Népal. Quelles sont les mesures que l'État parti entend adopter pour incriminer comme infraction pénale ces pratiques? Allez-vous apporter des réparations aux victimes? Comment allez-vous renforcer l'obligation du consentement préalable, libre et éclairé pour que toutes les femmes, toutes les personnes donnent véritablement leur consentement pour toute intervention médicale? Enfin, en ce qui concerne la santé mentale, pourriez-vous nous présenter les services de santé mentale spécifiques et de prévention du suicide qui sont disponibles pour les femmes au Népal? Merci beaucoup.